10h39 dans le Point de Max à Boulevard 102.1. On est ensemble jusqu'à midi avant de laisser place à Jeff Fortin et Pascal CV ainsi qu'Antonine Iaccarini pour En jase avec le fameux caucus Iaccarini tous les jours dès à peu près midi avec Jeff et Pascal. Ensuite, c'est Gravel dans le retour sans Audrey aujourd'hui. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'à 11h, il n'y aura pas d'open mic. Là. Audrey qui est en congé hier et aujourd'hui sera de retour demain. Oui, dans Gravel dans le retour, mais aussi dans l'open mic dès 11h. Donc, ne vous inquiétez pas. Pendant qu'on voit son collègue Gabriel Giguère, que vous entendez souvent sur les ondes de Boulevard à LCN avec Mario Dumont, nous, on a l'occasion de parler avec Renaud Brossard, vice-président et responsable des communications pour l'Institut économique de Montréal. Salut Renaud.
Comment ça va?
Ça va très bien, toi?
Ben oui, tu pars bien.
Le marché du pétrole, qui est extrêmement volatile depuis le début des frappes américaines en Iran. Et quand on dit volatile, ben oui, des fois c'est par le haut, des fois c'est par le bas, mais en bout de ligne, ce que ça veut dire, c'est surtout que ça bouge énormément. Puis hier, on a eu un exemple de ça, là, à partir du moment où Donald Trump a fait des déclarations, disons, encourageantes sur ce qui se passe en Iran, ben le prix du baril de pétrole a droppé. À quel point, tu sais, on parle beaucoup du fameux baril de Brent, le baril de pétrole. À quel point ça vient directement nous affecter, puis en combien de temps?
Bien, donc, c'est quelque chose qui vient directement nous affecter. Parce que quand on parle du marché du pétrole, c'est un marché qui, au moins même le marché de l'essence, c'est un marché qui fonctionne sur le principe du first in, last in, first out. Et essentiellement, ce que ça veut dire, ça, c'est que quand on regarde les prix, ben l'approvisionnement, ce qu'on voit comme le dernier baril qui est arrivé, le dernier baril qui est rentré, c'est le premier qu'on ressort. Donc, ça se répercute au niveau des prix directement. Et déjà, je pense que les gens le sentent. Quand ils vont faire un plein d'essence aujourd'hui, ça coûte quand même beaucoup plus cher que ce que ça coûtait il y a deux semaines avant le début de la guerre. J'ai regardé c'est quoi les chiffres, justement, la moyenne au Québec du prix de l'essence aujourd'hui, on est à 1,64. Si on regarde, vendredi le 27, juste avant le début des hostilités, on était à 1,44. Donc, cette augmentation de 20 sous, on la sent directement. Après ça, est-ce qu'on sent des variations dans la journée? Pas vraiment. C'est plutôt quelque chose qui est un peu plus, justement, au niveau du prix moyen, du prix d'achat. Mais c'est quelque chose qu'effectivement, on le sent directement.
On sent que la hausse arrive rapidement. Quand le prix du pétrole, du baril augmente, la hausse, pas trop long qu'elle vient frapper dans nos poches. Est-ce que quand le baril baisse, comme ça a été le cas dans les dernières heures, la baisse va arriver aussi rapidement ou malheureusement pour le consommateur, c'est pas comme ça que ça marche?
La baisse va prendre un peu plus de temps. Puis une des raisons pour ça, c'est que le marché s'adapte en fonction des prévisions. Essentiellement, ce que les essentiels disent, ce que les stations de service, les grandes entreprises pétrolières se disent, c'est bon, mais combien est-ce que ça va nous coûter pour refaire notre approvisionnement, pour pouvoir compenser pour le baril de pétrole, pour le litre d'essence qu'on vient de vendre. Et c'est pour ça que ça prend un certain temps. Il faut voir aussi que beaucoup de ces choses-là, on voit justement donc le prix du pétrole qui augmente rapidement, qui pèse rapidement. C'est pas exactement comme ça que ça fonctionne lorsque vient le temps d'acheter la ressource. Les raffineries, en général, fonctionnent avec des contrats sur un certain nombre de mois, avec certains fournisseurs précis. Ce qu'on voit au niveau du prix du marché, c'est donc le prix de transaction moyen pour ce qu'on appelle des futures, donc cette vision de à combien est-ce que le baril va être dans les prochains mois. Donc c'est pour ça qu'on a, ça prend un peu plus de temps à s'ajuster, c'est quelque chose qui est un peu plus lisse, mais qui fait en sorte que malheureusement, on n'aura pas justement cette baisse du prix aussi rapidement. Il faut quand même noter aussi que l'augmentation du prix qu'on a vu, elle est rapide. La diminution aussi du prix du baril qu'on a vu hier, elle est rapide, elle est passée de 120 à 88 $ le baril. Mais on reste quand même à un baril qui coûte 20 $ de US de plus à acheter que ce qui coûtait il y a deux semaines. Quand même une augmentation de 30% des prix. Ce qu'on voit, c'est que ça se répercute à la pompe, mais l'augmentation aurait été encore plus fulgurante puis encore plus soutenue sur une plus longue période si on était resté à des prix de 120 $ le baril.
Est-ce que le prix du baril de pétrole, c'est un des marchés les plus volatiles là, quand on regarde tout ce qui se fait sur les différents marchés, ou c'est juste que là, bon, on est dans une situation qui est quand même, qui vient frapper de façon très précise ce qui se passe niveau pétrole, là, avec notamment 20% du pétrole à travers le monde qui transite par le fameux détroit d'Ormuz. C'est ça, le pétrole, est-ce que c'est reconnu d'habitude comme étant quelque chose qui bouge énormément et de façon aussi marquée, ou ça se voit dans bien d'autres domaines?
Donc, il y a deux choses ici. Est-ce que le pétrole est un marché qui est reconnu comme étant volatile? Absolument. C'est un marché qui va justement avoir des grosses variations au sein d'une même année. Contrairement à d'autres produits, d'autres biens, où on se dit, ben, écoutez, c'est quelque chose qui va varier des fois de 5-10% dans l'année. Le pétrole, on parle de variations beaucoup plus marquées. Par contre, de voir des variations comme celles qu'on a vues récemment, justement une augmentation, écoutez, qu'on prend le prix du baril qui est passé de à peu près 60$ il y a deux semaines à 120$ pour ensuite redescendre à 88$, ça, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, même dans un marché comme le pétrole. Donc, c'est vraiment un niveau de volatilité qu'on voit pas d'habitude. Il faut voir aussi pourquoi est-ce qu'il y a autant de volatilité. Essentiellement, mais écoutez, comme vous le mentionnez, le détroit d'Ormuz, c'est 20% du pétrole mondial. Mais on a essentiellement 20% de l'offre d'une ressource où on a une demande qui est très peu élastique. Je veux dire, l'essence, on en a besoin. Notre consommation ne change pas rapidement. Donc, c'est une ressource qui est très peu élastique au niveau de la demande. L'offre vient de subir un coût énorme. On a 20% de l'offre qui est mise en danger. Ben, c'est comme ça qu'on a justement des réactions de même dans les marchés qui font en sorte que la valeur de la ressource augmente beaucoup parce que l'offre vient de prendre un coup, mais la demande reste la même. Ça prend beaucoup plus de temps à l'ajuster.
J'ai vu une question passer intéressante dans différents médias dans les derniers jours. Quant à une réserve nationale de pétrole, ce qu'on n'a pas au Canada, mais que plusieurs puissances à travers le monde possèdent des réserves nationales de pétrole, ça serait-tu une pas pire idée au Canada? Ça servirait-tu à quelque chose? Ça viendrait-tu peut-être stabiliser un petit peu les prix du marché, du moins ici au Canada?
Ben, je dirais que c'est quelque chose que... C'est sûr que ça peut venir lisser les prix dans la mesure où, bon, le gouvernement pourrait faire sortir une couple de millions de barils soudainement pour stabiliser les marchés. Mais c'est quelque chose qui coûte très, très cher. Je dirais pour le nombre de fois qu'on a justement des situations comme ça, une augmentation de 30% des prix en l'espace de deux semaines, et par rapport au coût de maintenir une telle réserve, c'est pas nécessairement quelque chose d'avantageux. Des réserves comme ça, déjà, on n'a pas une réserve nationale au Canada. Cependant, on a beaucoup de raffineries qui ont des réserves. Puis quand on passe, que ce soit dans l'est de Montréal, à côté de la raffinerie de Suncor, ou à Lévis, près de celle de Valero, on voit toujours beaucoup de citernes. Mais ces citernes-là, c'est une réserve. C'est la même chose qu'il y a en Ontario, à Sarnia. C'est la même chose qu'à tous les endroits où on a des raffineries. Donc, même si c'est pas une réserve qui est gérée par le gouvernement, ben les raffineries elles-mêmes ont une réserve qu'elles se bâtissent qui va varier en fonction des cours du pétrole et qui va varier en fonction de justement le niveau de production, leur capacité de production à ces moments-là.
Renaud Brossard, vice-président responsable des communications pour l'Institut économique de Montréal. On parle de la volatilité du marché du pétrole, du baril de pétrole. Mais depuis que Donald Trump est au pouvoir, de la volatilité, on dirait qu'il y en a énormément. Puis avec une seule publication, Truth Social, une seule phrase lancée devant les journalistes, on dirait que Trump a ce pouvoir-là de soit faire tout dropper, soit faire tout monter. Je ne veux pas accuser personne, mais il y en a beaucoup qui se posent la question. Ça se peut-tu qu'il y a des proches de gens au pouvoir, notamment peut-être aux États-Unis, qui puissent profiter des variations importantes en bourse?
J'ai pas de doute sur le fait qu'il y a des gens qui profitent de ces variations-là. Puis vous savez, au final, la bourse, ça reste, c'est de faire un pari. C'est de faire un pari qui est informé, mais c'est de faire un pari. J'ai pas de doute qu'il y ait des gens qui en profitent un peu. Mais je pense que ce que ça montre aussi, cette volatilité-là, justement, qui est en hausse dans plusieurs secteurs, c'est qu'il faut aussi regarder qu'est-ce que nous, on peut contrôler. Parce qu'on peut, on n'a pas vraiment de contrôle sur l'impulsivité de Trump. Mais en revanche, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada ont des contrôles sur les taxes, ont des contrôles sur les règlements. Puis, je vous avoue, on a regardé, nous autres, à l'IEDM, depuis le début, du conflit avec l'Iran, où je mentionnais, il y a eu une augmentation de 27,5 du prix moyen de l'essence au Québec. Ben, le gouvernement du Québec, il s'en met plein les poches avec ça aussi. C'est une base annualisée. Donc, si cette hausse-là se maintient, on parle d'à peu près 180 millions de dollars en revenus additionnels qui rentrent dans les poches de Québec, juste avec la TVQ. Donc, peut-être que Québec pourrait regarder de son côté aussi qu'est-ce qu'il peut faire pour réduire un peu la pression Tu parlais de 180 millions de dollars, ça, c'est juste le revenu avec la hausse de la TVQ. Et puis, il y a jusqu'à 6 taxes qui sont facturées sur l'essence au Québec. Donc, au final, il y a vraiment beaucoup de choses que les gouvernements peuvent faire pour venir aider les gens et venir réduire un peu ce caractère de volatilité qui vient malheureusement de nos voisins du Sud, mais avec les éléments justement que le gouvernement du Québec contrôle, que le gouvernement du Canada contrôle, il peut réduire cette volatilité des prix pour les contribuables québécois, pour les contribuables canadiens.
Mais d'ailleurs, la table est bien mise pour la dernière question que j'avais pour toi, Renaud. Bernard Drainville, ce matin, Bernard Drainville, candidat dans la course à la chefferie de la Coalition Avenir Québec, peut-être, les sondages s'en vont pas vers là, mais peut-être futur premier ministre du Québec, il a lancé sur les réseaux sociaux que, bon, la guerre en Iran fait en sorte que les Québécois paient leur essence plus cher, puis que quand le prix à la pompe augmente, c'est plus d'argent qui sort des poches des Québécois et le gouvernement encaisse davantage. Et ce que Bernard Drainville dit, c'est que cet argent-là appartient aux Québécois, donc il prend l'engagement, lorsqu'il prendra le pouvoir comme chef du gouvernement, de calculer combien d'argent supplémentaire l'État a encaissé en raison de la hausse du prix de l'essence. Et cet argent-là, on va le retourner directement dans les poches des Québécois. Parle de plusieurs formes possibles, un chèque, un crédit d'impôt, autres mesures équivalentes, dit « c'est mon engagement ». Est-ce que c'est quelque chose qui t'a surpris ce matin, cette sortie-là de Bernard Drainville?
C'est pas quelque chose qui me surprend, dans le sens où je pense que c'est de la bonne politique de sa part. Justement, il perçoit ce problème-là, puis c'est un problème bien réel. Je veux dire, tout le monde qui est allé faire un plein d'essence sent la différence par rapport à ce que c'était il y a deux semaines. Après ça, est-ce que le faire par des chèques, par des crédits d'impôt, c'est la bonne façon? Écoutez, c'est un moyen qui est beaucoup plus complexe que de simplement s'engager à réduire certaines des taxes. Au lieu de prendre l'argent dans nos poches, faire des gros calculs pour trouver comment nous le remettre à la fin, peut-être que le plus intéressant serait justement d'avoir juste une réduction des taxes, une réduction des impôts, donc venir à la base nous prendre moins d'argent dans les poches.
Renaud Brossard, vice-président et responsable des communications pour l'IEDM, un gros merci pour ton temps ce matin, on se repart bientôt.
C'est un plaisir. Bonne journée.
Salut. Donc, le prix de l'essence qui continue évidemment de faire jaser. Prix de l'essence, bon, ça c'est pour nous autres au Québec, monsieur, madame, tout le monde. Quand on parle, quand on veut mieux parler, et là, on peut parler du baril de Brent à l'international, du cours du pétrole. Mais en bon québécois, c'est le prix du gaz. Qu'est-ce qu'on paye qui vient nous affecter? Et ce qui se passe à l'international, ben ça vient directement nous toucher dans nos poches. On parlait avec Renaud de l'Institut économique de Montréal et je vais faire un pont vers son collègue Gabriel Giguère de l'IEDM qui, lui, ce matin, s'attardait aux employés de l'État. L'IEDM qui nous dit que depuis 2019, la majorité des nouveaux emplois créés au Québec proviennent du secteur public, une tendance qui soulève des enjeux importants pour les finances publiques, selon l'analyse de l'IEDM. Entre janvier 2019 et aujourd'hui, plus de 430 000 emplois qui ont été créés au Québec, excluant les travailleurs autonomes. Et de ce nombre-là, c'est au-dessus de 237 000 qui sont des emplois publics. C'est 55 %. On dit que le secteur privé en a créé 193 000, même 194 000 si on arrondit, là, ce qui représente à peu près 45 %. Depuis 2019, c'est au-dessus de 31 % des nouveaux emplois créés en Ontario qui proviennent du secteur public, alors que dans le reste du Canada, à l'exclusion du Québec, la proportion est de 36 %. On voit qu'au Québec, mettons qu'on n'est pas dans la norme, là, plus de la moitié des emplois créés l'ont été par le public. Les dépenses liées à la rémunération atteindront 64 milliards de dollars en 2025-2026. Ça, c'est à peu près 41 % des dépenses de portefeuille. Du côté d'Ottawa, les dépenses en rémunération qui s'élevaient à 71,4 milliards en 2024-2025, ça, c'est une hausse de 30,5 % depuis 2019. Fait que, tu sais, à Ottawa, ça nous coûte quand même cher en fonctionnaire, mais de voir ces chiffres-là au Québec, c'est fascinant, là. Alors que la Coalition Avenir Québec, alors que François Legault faisait un cheval de bataille de réduire la taille de l'État, sont au pouvoir depuis 8 ans et on se rend compte que depuis 2019, c'est 55 % de tous les emplois créés à travers le Québec qui ont été créés dans le public. Fait qu'on paye nous autres avec nos taxes, avec nos impôts. C'est complètement à l'inverse de ce qui avait été promis par la CAQ, de ce qui avait attiré bien des électeurs à voter pour la CAQ. Et bon, là, je comprends que Bernard Drainville essaye de pédaler par en arrière puis de nous dire que lui, s'il est élu chef de la CAQ, ben ils vont vraiment revenir à ça. Mais y a-t-il vraiment quelqu'un à la CAQ, quand on voit des chiffres comme ça, qui a la crédibilité de nous mentionner ça, alors qu'il était où, tu sais, Bernard Drainville, dans les dernières années, alors qu'on continuait de créer des emplois au public puis de dépenser beaucoup d'argent là-dedans? On le voyait pas, parce que la ligne de parti, puis t'as pas le choix de respecter ça, on le comprend. Mais très intéressant de lire cette nouvelle analyse-là publiée par l'Institut économique de Montréal. Puis on aime bien jaser avec les gens de l'IADM. Nous, vous entendez très souvent Gabriel Giguère sur nos ondes. Là, c'était avec Renaud Brossard qu'on parlait aussi dans les dernières minutes d'un autre sujet. Mais toujours un plaisir de leur jaser. Dans les prochaines minutes, c'est avec un représentant du Parti québécois qu'on va parler. Pascal Bérubé, qui est le porte-parole du PQ en matière d'éducation, député de Matane-Matapédia, un gouvernement du Parti québécois qui va serrer la vis sur la violence à l'école. Vous écoutez le Point de Max à Boulevard.
Le Point de Max.